La pollution des transports, le salut par la technologie ou le ralentissement? Avec Laurent Castagnède, ancien ingénieur de la marque Losange, auteur de l'ouvrage Hervor ou la face obscure des transports, publié en 2018.
Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Laurent Castagnède, en fait je suis Biarro. À partir depuis l'âge de 4 mois. Je ne suis pas né à Biarritz, mais c'est à peu près pareil. J'ai vécu à Biarritz toute ma scolarité, donc c'est peut-être que certains connaissent mon nom, peut-être par mon père ou ma mère. Ma mère avait un bureau d'études à Bayonne pendant plusieurs décennies dans le bâtiment. Ma mère, elle est adjointe à la culture à Biarritz, donc si le nom vous dit quelque chose, c'est peut-être par ces deux biais-là. Donc, j'ai vécu 18 ans à Biarritz, ensuite j'ai fait maths sup, maths spé à Bordeaux, centrale à Paris. Après l'armée, j'ai fait... J'ai travaillé chez Bouygues dans le bâtiment, 6 ans. Ensuite, je suis parti à Paris chez Renault pendant 9 ans. Chez Renault, j'étais responsable pendant 5 ans du milieu de toutes les lignes d'échappement des véhicules utilitaires, en vie-série, en développement. Donc vous voyez, c'est la période 2002-2007. Pour vous resituer, c'est la période où chez Renault, on commençait à installer des filtres à particules sur les lignes d'échappement, des choses comme ça. Et à la fin, on commençait à travailler sur les systèmes à urée pour traiter les oxydes d'azote. Bon. Donc j'en connais un rayon sur ces sujets-là. Ensuite, à la fin, j'étais responsable du châssis du Master. En fait. Le Master, c'est le gros fourgon Renault. Et je suis parti en 2009 pour des raisons familiales, en fait. Hein. Je devais retourner dans le sud-ouest. Donc je me suis installé à Bordeaux. Je devais aller à Bordeaux. Donc je me suis installé à Bordeaux et là je me suis lancé à faire des bilans carbone. Alors il se trouve plutôt dans le bâtiment parce que j'avais une expérience bâtiment et pas dans l'automobile puisque évidemment dans l'automobile à Bordeaux vous êtes un obscur ingénieur loin de tout. Donc j'avais donc des bilans carbone dans le bâtiment, dans les événements, pour les collectivités, etc. Donc mon bureau d'études BCO2 et mûrissait en moi quand même l'envie de me dire je sais quand même pas mal de trucs, il y a beaucoup de choses à raconter sur ces histoires de pollution de l'air des transports et il n'y a rien. En fait, des bouquins, il n'y a rien. C'est-à-dire que des bouquins dans l'alimentation, vous en avez plein. Des bouquins engagés, tout ça, depuis des décennies. Dans le bâtiment aussi, comme même ma maison écolo, je construis ma maison en bois. Dans les transports, il n'y avait rien. Les livres sur les transports, c'est l'histoire du progrès technique. L'histoire de l'aviation, l'histoire de l'automobile. Enfin, quelques livres engagés des fois, ou alors au travers de livres, qui parlent en général de la pollution, deux pages sur les transports. Mais c'était ça, pas de livre de fond. Donc du coup, je me suis dit, ben voilà, mon colibri à moi, ben, pour mes enfants... ça va être de balancer un bouquin dans la nature, engagé. Voilà. Donc c'est ça que j'ai lancé en juillet 2015, avant l'affaire Volkswagen. Quand l'affaire a éclaté, j'avais déjà rédigé les paragraphes dessus. Là, je me suis dit, c'est mort. Ça y est, maintenant, il y a 10 journalistes qui, dans un an, sort la vérité sur le Dieselgate. Bon, j'ai quand même continué, parce que je ne traitais pas du tout que les voitures, ni que le diesel. Donc j'ai quand même continué, bien m'en a pris. Après, avec l'éditeur Éco-Société, enfin, gros label au Canada, je ne sais pas si vous savez, mais allez voir sur Internet Éco-Société, c'est vraiment des bouquins très engagés, que du développement durable, top. Donc ça, c'était très bien. Et l'éditeur, pendant un an, on a fait des relectures, ça, vous imaginez pas le boulot, et qui me disait, moi je disais sans cesse, mais c'est pas possible, il y a un bouquin qui va sortir, l'affaire Dieselgate, ça n'arrête pas de rebondir. Et il me disait, non, personne n'est capable de faire ce que vous faites, parce que les gens compétents, la plupart, ne peuvent pas parler. Ils n'ont pas le droit. Quelqu'un de chez Renault qui écrit un paragraphe que j'ai écrit, il est viré par Gone la semaine d'après. Il faut prendre du temps, 2 ans et quelques, mettre entre parenthèses sa carrière, son boulot professionnel pour consacrer à fond pendant 2 ans un truc pareil, qui est capable de le faire. Et ensuite, il faut avoir envie. Voilà. Donc la compétence, le temps, l'envie, il me répondait, l'éditeur, ne vous inquiétez pas, monsieur Castel, ne vous inquiétez pas, personne ne va sortir un truc pareil. Et effectivement, on n'arrête pas de parler de pollution de l'air des transports dans un article de presse tout le temps. Et Hervor n'a toujours pas de concurrence. Donc c'est sorti en avril. Voilà, bref, bon, ça c'est la présentation. Alors si je vous ai écrit le titre, donc ça me fait très plaisir d'être ici, et particulièrement à Bayonne. Alors je vous ai mis le titre là, parce que c'est très simple. Première partie, on va faire ça. Deuxième partie, on va faire ça. Troisième partie, on va faire ça. Quatrième partie, on va faire ça. Voilà. Alors.
En 25 minutes.
Voilà. La pollution des transports. Alors, je vais parler de pollution de l'air des transports, hein, parce qu'effectivement, vous avez aussi de la pollution des sols avec les matériaux, machin. Bon, pollution de l'air. C'est-à-dire deux grosses catégories de pollution de l'air, les gaz à effet de serre et les polluants que l'on respire. Voilà, okay. Donc on va traiter des deux sujets. Alors, la pollution des transports, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Alors, la pollution de l'air, la pollution de l'air extérieur, dans le monde aujourd'hui, c'est à peu près 5 millions de morts par an. À comparer aux accidents de la route, essentiellement, vous vous ajoutez les avions et les navires, mais en fait c'est surtout la route hein, qui tue les gens, c'est 1 300 000 personnes par an. Vous voyez, donc 5 millions la pollution de l'air extérieur. La pollution de l'air extérieur, elle n'est pas due qu'au transport. Mais grosso modo, les polluants, c'est à peu près suivant les grandes métropoles, entre 20% et 50% des polluants, ça va dépendre des métropoles. Si elles sont déjà très polluées, comme en Chine, ben les transports, c'est plutôt une faible proportion, parce qu'il y a toutes les industries, l'électricité. Bon. Par contre, dans les pays occidentaux, on est plus près des 50, et puis après, ça dépend si on parle des particules, si on parle des oxydes d'azote ou de l'ozone. Bon. Mais grosso modo, retenez que c'est à peu près entre 20 et 50% les polluants de l'air des transports. Et donc vous voyez les 5 millions si on les divise par 3 ben, on dépasse en fait l'accidentologie de la route au niveau mondial. Les gaz à effet de serre c'est à peu près un tiers. Vous entendez des fois dire à les transports c'est je sais pas, 15% des émissions au niveau mondial. Oui mais ça c'est que le CO2 qui sort des tuyaux d'échappement. Les transports c'est pas simplement les tuyaux d'échappement, c'est aussi fabriquer des voitures, construire des routes, faire des parkings et tout ça, ça émet des gaz à effet de serre. Donc en fait si on rajoute les moyens et les infrastructures on est à un tiers hein, des émissions mondiales. Donc ça, il faut avoir en tête. Ensuite, en France, ce que je vous ai dit, ça, c'est au niveau mondial. Au niveau français, ben, les accidents de la route, c'est entre 3 500 et 4 000 morts aujourd'hui. C'était quand même 16 000 en 1972. Donc on est à moins de 4 000 morts sur la route. En revanche, la pollution de l'air extérieur, c'est un petit peu plus de 50 000 morts par an aujourd'hui. 48 000 a priori pour les particules, et puis il faut rajouter un peu d'ozone. Donc on est plutôt à 55 000 à peu près. Donc si vous dites que, vous prenez le dire, on va dire c'est un tiers, c'est le fait des transports, on a entre 15 et 20 000 morts par an, du fait simplement des gaz d'échappement, en gros des voitures, massivement, mais aussi des autres transports motorisés, c'est-à-dire plusieurs fois plus que les accidents de la route. Donc c'est, voilà, c'est quelque chose qu'on ne... Après, certains vont dire, ah oui, mais les accidents de la route, ça tue un peu n'importe qui. Effectivement, en nombre d'années de vie perdues, un accident de la route, c'est une personne moyenne en âge, en fait. Vous avez des enfants, des personnes âgées. Alors que les gens qui meurent de la pollution de l'air extérieur aujourd'hui, c'est plutôt des gens âgés. Donc en fait, en nombre d'années de vie perdues, ça ne se rééquilibre pas quand même. C'est-à-dire que les transports tuent quand même plus enfin, en années de vie perdues par les émanations que par les accidents. Voilà. Donc retenez qu'une voiture tue plus en fait, par les gaz d'échappement que par. Sauf que ça, c'est moins spectaculaire. Voilà, c'est juste ça. Un accident, des fois, il peut y avoir 10 morts, vous l'avez à la télé. Alors que les gens qui meurent tous les jours par dizaines, mais chacun dans un lit différent ou chez lui d'un accident cardiovasculaire, ben, voilà, on s'y est habitué. Alors. La pollution des transports, juste un bref historique, mais très bref. Sur deux siècles, le livre La Moitié, c'est l'histoire de la pollution de l'air des transports. Donc se demander, en fait, avant d'analyser la situation actuelle, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis deux siècles? Et en fait, je vous fais très très court. Hein. Au 19e siècle, ce qui polluait le plus, c'était les chemins de fer. Et c'était pas les locomotives. En fait, c'était la fabrication des rails. En fait, la fabrication des rails au 19e siècle, ça a mobilisé, certaines années, plus de la moitié de l'ancien mondial. Donc si vous rajoutez en plus les gares, les ponts et tout ça... En fait, la révolution industrielle du 19e, c'est d'abord celle des transports. Et les gens qui mouraient le plus de la pollution de l'air des transports n'étaient pas ceux qui étaient dans les moyens, mais ceux qui fabriquaient les matériaux pour les infrastructures. Ensuite, donc là je vais très vite, hein, l'automobile qui arrive au début du 20e siècle, en fait, elle est arrivée surtout en... Alors je passe sur le fait qu'elle a duré 10 ans, en 1830 en Angleterre, il y a eu des mesures drastiques qui fait que le marché s'est effondré. Et en 10 ans, de 1830 à 1840, et c'est pour ça qu'après, il n'y a plus de constructeurs anglais, parce qu'il y avait des lois tellement prohibitives, que finalement, quand la technologie a permis de faire des moteurs à explosion et des batteries, mais en fait, l'Angleterre, ben, en fait, il y avait très peu de voitures, parce qu'il y avait trop de mesures qui les interdisaient presque. Donc c'est surtout né en France, en Allemagne, puis quelques années plus tard aux États-Unis, mais pas longtemps après. Et en France, c'était surtout à Paris. À Paris, il y avait 100 000 chevaux à la fin du 19e siècle. 100 000 chevaux, ça veut dire du crottin partout, des cadavres d'animaux morts par dizaines qui n'étaient pas évacués immédiatement dans la ville, donc des épidémies de fièvre typhoïde dans Paris. Donc en fait, les premières voitures qui sont arrivées, même si elles polluaient beaucoup, pour les gens, c'était une bénédiction. Parce qu'ils se disaient, une voiture en plus, même si elle fume, on s'en fiche, ça, je veux dire, la pollution des chevaux, ça tombe par terre, on n'arrive pas à l'évacuer. Alors que finalement, bon, la voiture, ça sera dispersée dans l'air, et puis avec du vent et de la dilution, on s'en débarrassera bien vite. Donc ça, c'était vrai tant qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais c'est pour vous dire pourquoi, finalement, dès le départ, l'automobile, on ne s'est pas préoccupé de la pollution d'air. Alors que pourtant, c'est quelque chose d'extraordinaire, vous l'avez dans le livre, les premiers catalyseurs ont été mis au point en 1897. C'est quand même assez extraordinaire. Ils ont été mis en série dans les automobiles au début des années 70, alors que les premiers prototypes datent de la fin du 19e, en catalyseur pour voiture. C'est pour vous dire un peu le peu d'attention qu'on a pris pour la pollution de l'air. Peu d'attention aussi parce que dans les années 20, on a rajouté du plomb dans l'essence. Les médecins à l'époque ont crié au scandale d'aller mettre du plomb dans l'air des villes. Parce que le scandale du saturnisme, de manger de la peinture blanche de plomb, date des années 10. Donc vous imaginez, 10 ans après, on veut mettre du plomb dans l'essence, et on le commercialise pour augmenter en fait le taux de compression des moteurs, donc en fait la performance des moteurs. Donc gros scandale, et puis finalement les médecins n'arrivent pas à prouver qu'il va y avoir des dégâts colossaux, parce que respirer du plomb, c'est une intoxication lente. Donc ça sera des centaines de milliers de morts, mais on ne le découvrira que 50 ans après. Ensuite, il y a les épisodes de smog. Les épisodes de smog en Angleterre, qui est surtout le fait du charbon soufré. Et des épisodes de smog, surtout aux États-Unis, vers Los Angeles, New York, avec des épisodes qui étaient dus à des phénomènes liés aux émanations d'essence, en fait, qui ont été résorbés, et ensuite aux oxydes d'azote, avec un smog à Los Angeles, au début des années 60, c'était un jour sur deux. Donc énorme en fait, hein. Donc une prise de conscience très forte en Californie, et c'est pour ça que c'est d'ailleurs là-bas que les premières mesures ont été prises. Donc multiplication des normes à partir de la fin des années 60, donc, vous êtes peut-être au courant, alors en Europe ça s'appelle les normes Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, on en est à l'Euro 6, avec des sévérisations de niveau permanent, pour en reparler, avec des réussites très très mitigées. Et puis au milieu de tout ça, une aviation qui prend beaucoup d'ampleur. Voilà. Alors, donc là, voilà, la pollution des transports, je vous ai fait déjà une petite introduction. Alors, le salut. Alors, pourquoi on cherche le salut, en fait? Parce qu'on n'est pas bien, en fait. Bon. Les gaz à effet de serre, vous savez qu'ils sont en augmentation. Bon, voilà, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Ensuite, les polluants aussi sont en augmentation. Alors, ça va dépendre des polluants. Le plomb, par exemple, est en diminution. Alors, c'est pas un polluant naturel, évidemment. C'est parce qu'on l'a mis dans l'essence. Heureusement, on a commencé le retrait. C'était concomitant à l'apparition des catalyseurs, parce qu'en fait, le plomb dans les gaz d'échappement empêchait les catalyseurs de fonctionner. Donc, du coup, ça, finalement, l'un dans l'autre, l'arrivée des catalyseurs pour la dépollution a permis, quelque part, au système d'évacuer le sujet du plomb à bon compte. Et pas de trop de s'interroger sur le fait que c'était quand même une décision catastrophique. Ensuite, en termes de prospective, pourquoi on cherche le salut? Parce que si on ne fait rien, la prospective sur les transports, grosso modo, aujourd'hui, il y a 1 milliard de voitures en circulation dans le monde. Les analyses toutes convergent vers le fait qu'on part vers 1,7 milliard de voitures vers 2035, quoi, avant 2040. Il est prévu, dans les tuyaux, d'ici 2050, 25 millions de kilomètres de route. Okay, donc ça va appeler en fait forcément à des déplacements supplémentaires. Juste un truc, si vous faites un petit calcul comptable, 25 millions de kilomètres de route multipliés par 10 mètres de large, divisé par le nombre d'habitants sur la Terre, 7 milliards, vous obtenez 30 mètres carrés. Donc ça veut dire finalement aujourd'hui, tout le monde va avoir à disposition, en plus d'aujourd'hui, 30 mètres carrés à soi, une espèce de chaussée de résidence secondaire, alors que vous avez la moitié de la population mondiale qui n'a même pas cette qualité pour les sols, pour le sol de sa propre habitation. Donc ça interroge quand même sur les notions d'équité. Voilà. Et le transport aérien, les voitures, le transport aérien, tout est à l'unisson entre les constructeurs, les IATA, l'OACI, etc., pour dire que bon, la croissance, c'est jusqu'ici de 5% par an, c'est quasiment indéflectible, il y a eu quelques petits soubresauts, mais la croissance du transport aérien, c'est 5% par an. 5% par an, c'est un doublement tous les 15 ans. Si vous faites 1,05 puissance 15, vous obtenez 2, à peu près. Donc, doublement tous les 15 ans, et c'est bien ce qui s'est passé et ce qui est prévu, on va dire, par les grands organismes pour les 30 prochaines années à venir. C'est-à-dire un doublement dans 15 ans, un quadruplement du trafic mondial, à la fois le nombre d'avions et les kilomètres passagers. Voilà, et les navires, c'est en augmentation aussi de 3% les prospectives par an. Donc un doublement tous les 25 ans, donc les voitures, enfin les transports routiers, 3% par an, doublement tous les 25 ans, le transport aérien, 5% par an, doublement tous les 15 ans. C'est ça qui est annoncé pour les 30 prochaines années. Alors vous imaginez bien que même si tant est qu'individuellement les véhicules soient moins polluants, supposé qu'on y arrive, avec une augmentation pareille, la pollution globale va augmenter et les gaz à effet de serre avec, c'est une évidence. Donc voilà pourquoi on cherche le salut. Alors le changement climatique, bon vous savez, les hausses de température, la montée des mers, l'immigration, les ressources agricoles, etc. Le coût de l'adaptation, évidemment. Et puis les polluants, finalement, c'est en train de devenir en fait la première cause environnementale de décès. Dans quelques années, avec l'augmentation des décès dus aux polluants urbains, en fait, la pollution de l'air extérieur va devenir en fait la première cause environnementale de décès d'ici quelques années, devant l'eau insalubre et le manque d'assainissement dans le monde. Je ne sais pas si vous voyez. Le manque d'assainissement et l'eau insalubre, ça tue des millions de gens aujourd'hui. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, on cherche le salut. Je viens vite, non, c'est bon. Voilà. Donc le salut, comment on va le trouver? Il y en a plein qui disent, enfin qui écrivent, on va y arriver par la technologie. C'est-à-dire, oui, nos moyens sont polluants, c'est vrai, c'est pas bien, on s'auto-flagelle, et on dit non, ne vous inquiétez pas, il y a des milliers d'ingénieurs qui travaillent dessus. Ne vous inquiétez pas, la technologie est là, à force d'innovation de gens qui sont dessus, on va trouver la solution, ne vous inquiétez pas, la prochaine génération de véhicules, on vous le promet, voilà. Bon. Disons que si on vivait à l'instant présent et qu'on n'avait pas d'histoire, on dirait pourquoi pas, finalement, why not? Mais l'ennui, c'est que quand on regarde l'histoire en fait depuis deux siècles, on se rend compte que bah, ce discours, en fait, ça fait des décennies qu'on le tient, et depuis vraiment très longtemps. Et en fait, globalement, ça a été un échec permanent. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut nécessairement douter du fait que, par la technologie, on va obtenir le salut. Alors, je vais vous citer quelques exemples. Par exemple, le post-traitement diesel. Alors, le diesel, gros sujet. Donc, Rudolf Diesel, par exemple. Alors, Rudolf Diesel, c'est la fin du 19e siècle. Rudolf Diesel lui-même, dans des interventions qu'il faisait, parce qu'il était en quête d'investisseurs, vous imaginez, à l'époque où, fin du 19e, le système automobile, il hésitait entre les accumulateurs, donc la voiture électrique, la voiture à gaz, la voiture à éthanol, la voiture à essence, tout ça était en concurrence, et puis le pauvre Rudolf Diesel au milieu, qui lui voulait se dire, moi aussi, j'ai ma chance. Donc en fait, lui, déjà, il écrivait à l'époque que les gaz d'échappement de diesel, on peut mettre un papier derrière les gaz d'échappement, on ne voit aucune trace de la combustion, aucune trace de suie, la feuille reste blanche. C'est extraordinaire de lire ces discours-là, parce que vous dites, mais non, ça c'est Jacques Calvet en 1980. Non, c'est Rudolf Diesel en 1898. Donc le diesel, dès le départ, était dans la quête de la preuve, enfin, de la méthode Coué, que ça n'était absolument pas polluant. Alors, ensuite, finalement, la litanie du diesel, donc l'origine du diesel, je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est en fait les centrales, enfin, le diesel en Europe et au Japon, c'est les centrales nucléaires. C'est en fait les parcs nucléaires américains, européens, japonais, qui se sont construits dans les années 50, nucléaires civils, hein, les années 50 et 60, ont fait que ces pays-là se sont retrouvés avec des excédents de fuel, parce qu'on s'est mis à fabriquer massivement de l'électricité, et donc électricité qui était massivement fabriquée avec du fuel. Fuel, c'est-à-dire en pas loin d'être, on va dire, du gazole. Donc du fuel. Et on se retrouve avec des excédents de fuel. Mais on importe toujours plus d'essence, parce qu'il y a la croissance du trafic routier. Et donc, pour des questions d'indépendance énergétique au Japon comme en Europe, on s'est dit, ben non, il faudrait trouver un exutoire. Et donc, les constructeurs automobiles ont proposé de développer massivement le diesel. Ça ne s'est pas fait aux États-Unis parce que, justement, ils sortaient des épisodes de smog, dont je vous ai parlé, qui fait que des voitures diesel qui émettent plus d'oxyde d'azote, pour eux, c'était inadmissible, voire des particules. Donc, en fait, les États-Unis ont complètement bloqué réglementairement, alors que la porte a été largement ouverte en Europe et au Japon. Au Japon, dans les milieu des années 90, gros procès à Tokyo de personnes qui sont atteintes de maladies, qui portent plainte. C'est une action collective, en fait. Au départ, ils étaient 5, après, ils étaient 500 quelques semaines après. Action collective contre les constructeurs qui distribuent du diesel. Et en fait, il y a eu tellement de médiatisation de cette affaire que les constructeurs ont perdu, mais plusieurs années après, que dès 1995, le diesel est tombé a été mal vu, en fait, en gros. Voilà. Donc finalement, le diesel qui était parti à fond au Japon comme en Europe, retournement de tendance à 95 pour petit à petit diminuer et devenir anecdotique il y a quelques années. C'est notamment pour ça que Toyota s'est lancé dans l'hybride et qu'en Europe, les constructeurs, sous la pression du CO2, ont dit non, nous on a le diesel, donc qui consomme moins que l'essence. Donc le post-traitement, ça a été le filtre à particules où Peugeot a mis un fric fou dedans parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils ne développaient pas en option le filtre à particules, ils étaient tellement taxés petit à petit de voitures sales. Il fallait absolument qu'il redore le blason du diesel. C'est pour ça que le filtre à particules a été développé, mis en option sur quelques voitures, complètement à perte. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait les particules, c'était les plus fines qui passaient, donc deuxième génération de filtre à particules. Ensuite, s'il y a les oxydes d'azote, oui, on a la solution, c'est d'envoyer de l'urée dans les gaz d'échappement pour traiter les oxydes d'azote. Donc la ligne d'échappement, quand j'ai quitté Renault, on rigolait des fois entre nous, en train de se dire, mais sur les petites voitures diesel, ce qui était déjà, on était plusieurs à dire, c'est une hérésie complète de faire des petites voitures urbaines diesel, n'importe quoi. Mais il y avait certaines voitures, on se disait, mais attends, mais le coût de la ligne d'échappement va dépasser celle du moteur. Oui, on était là, de la base moteur. Et oui, parce que sur une ligne d'échappement, catalyseur, filtre à particules, système à l'urée avec du platine, du palladium, tous ces trucs là-dedans, il y a un moment, la base moteur du petit moteur diesel, ça finissait par, à l'achat pour Renault, coûter moins cher que la ligne d'échappement. Les agrocarburants, technologie, bon, c'est un peu de la technologie, on va dire. Bon, gros sujet, j'ai plus de 10 minutes, donc on pourra avoir des questions. Le véhicule électrique va nous sauver. Ben oui, on va tous peut-être être en voiture électrique. Alors, on pourra en reparler tout à l'heure. La voiture électrique, gros souci, il y a plusieurs soucis. Déjà, on peut pas tous être en voiture électrique, c'est pas possible. D'ici 30 ans, on n'a pas la capacité d'extraire les métaux qu'il faut pour substituer 1 milliard de voitures, je sais pas combien de camions, tous les deux roues, ce qui est une priorité. Sans vous parler des objets nomades, ordinateurs, qui eux aussi veulent les mêmes batteries. Bon, donc on n'a pas la capacité. Ce qui fait que la question, c'est est-ce qu'on laisse le marché attribuer les batteries? En gros, que les gros SUV électriques que vous pouvez aller voir ensemble l'auto, enfin, n'y allez pas. Et donc, aujourd'hui, la voiture électrique, elle fait 250 chevaux, 2 tonnes, enfin, elle accélère de 0 à 100, machin. Donc là, vous avez, est-ce que, on aura, la question moi, que je pose, moi, d'ailleurs, Tavares l'a posé, enfin, pas comme ça, mais est-ce qu'on va pas avoir un electric gate, exactement comme le disait dans 4-5 ans, où on aura vendu, je sais pas, le parc sera à 10% de voitures électriques, par exemple, la pollution n'aura absolument pas baissé, donc du coup, on se dira, il faut analyser, c'est pas normal, il y a 15% du parc, je sais pas, c'est des voitures électriques et la pollution baisse pas. Et moi, je pense que l'analyse, c'est qu'on va constater que les batteries ont été mises dans les usages les plus gaspilleurs. C'est-à-dire qu'en fait, on aura 10% de véhicules, mais plein de véhicules où ils sont deux fois trop gros, deux fois trop lourds, trois fois trop puissants, voilà. Et puis, on n'aura pas traité le sujet qui sont les deux roues, c'est une priorité en termes de polluants de l'air, et mettre de l'hybridation légère totale. Voilà, l'hybridation lourde, on ne va pas y arriver, il n'y a pas assez de métaux. Donc, voilà, les solutions, c'est les véhicules urbains qui roulent beaucoup, ceux-là, il faut qu'ils soient électriques, tous les deux roues électriques, et l'hybridation totale légère, pour récupérer l'énergie de freinage, au moins en milieu urbain. Voilà. Et avec ça, déjà je ne suis même pas sûr qu'il y ait assez de métaux pour faire ce que je dis. Mais ça, c'est la priorité. Or, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Les deux roues, on n'en parle pas, on parle que des gros SUV ou de la deuxième voiture du ménage qui ne fera que peut-être 4000 km. Ça sera une Zoé, mais une Zoé qui fait 4000 km, c'est du gaspillage. Une Zoé qui est taxi et qui fait 120 km par jour, ça c'est peut-être très bien. Donc, ce n'est pas la voiture électrique qui est un problème en soi. Ensuite, il y a la fabrication de l'électricité supplémentaire. Énorme sujet, gros tabou en France. Tabou au sens où, en France, vous avez un militantisme lobby qui dit l'électricité en France est à bas carbone, donc tout nouvel usage est à bas carbone. Donc ça, déjà, c'est juste une erreur de raisonnement. C'est pas parce qu'en moyenne, votre électricité est à bas carbone, ce qui est effectivement le cas en France, puisque stocker des déchets nucléaires, ça prend pas trop de CO2, mais bon, c'est pas le sujet. Donc c'est la pollution de l'air, mais dans 2000 ans, lorsque ça... l'air sera radieux. Bon, passons. Donc, on a effectivement une moyenne qui est... Mais on n'est pas en train de construire un réacteur nucléaire actuellement, parce qu'on espère avoir 2 millions de voitures électriques. Donc en fait, la voiture électrique en France n'est pas du tout forcément nucléaire. Tout l'hiver, quand il fait froid, les réacteurs sont tous à fond. Donc tout le monde qui va recharger sa voiture, il y aura zéro nucléaire dans l'électricité. Okay, donc ça va surtout être des centrales au gaz, en fait, ça qu'on ne dit pas. Donc le bilan carbone, même en France, en fait, de la voiture électrique, qui donc va augmenter de la demande sur le réseau électrique, contrairement à des voitures essence qui ne croisent jamais le réseau électrique. Donc voilà, il faut faire attention à ça, pas faire l'amalgame entre l'électricité moyenne et l'électricité supplémentaire. Donc en gros, la voiture électrique au niveau bilan carbone, bon, on va pas dire que c'est mauvais, enfin si, c'est mauvais en Grèce, parce que là, ça sera forcément 100% du charbon, donc si c'est 100% du charbon, bon, on peut dire que c'est quand même bien, si c'est dans le centre urbain, de déplacer la pollution à 30 km à l'extérieur de la ville, à l'endroit où il y a la centrale électrique. Donc voilà, moi je vois plutôt la voiture électrique comme étant un enjeu plutôt de pollution de l'air, en essayant de faire en sorte qu'elle n'augmente pas les émissions de gaz à effet de serre, si vous voulez. Voilà l'avis. Et puis fabriquer une batterie, c'est pas neutre. Une voiture à kilomètre zéro, c'est le langage automobile, kilomètre zéro, on vous remet les clés, mais en fait... À même poids, vous aurez ces 50% de gaz à effet de serre de plus que la Clio correspondante. Simplement parce qu'on a dû fabriquer la batterie. Et alors la technologie aussi, ben, ce qui va nous sauver aussi, le dernier truc, c'est la voiture autonome. La voiture autonome, géniale. Donc là, j'ai tout un chapitre du livre dont on m'a demandé de faire paraître des extraits qui sont dans ce sens. Voilà. En fait, la voiture autonome, aujourd'hui, elle est présentée comme substitutive. De dire qu'elle n'aura pas d'accident, elle va pas trop polluer parce que le meilleur conducteur en éco-conduite... La voiture autonome, elle a le pied encore plus léger. Sauf que toutes ces présentations, dites-vous bien, elles sont en logique substitutive. C'est-à-dire de penser qu'il y a un déplacement qui aurait été fait de toute façon en voiture thermique, enfin voiture actuelle, excusez-moi, avec le conducteur, et on substitue ce déplacement. Alors que pour moi, le plus gros danger de la voiture autonome aujourd'hui, c'est simplement qu'elle additionne des déplacements. C'est-à-dire qu'elle engorge les villes, parce qu'elle va permettre à plein de gens qui ne se déplaçaient pas en voiture, comme des enfants, des personnes âgées qui n'ont plus le permis, des gens qui veulent entreprendre des longs trajets, mais finalement, des gens qui vont dans les embouteillages sans en avoir peur, puisqu'en fait, la voiture autonome, dites-vous bien, les embouteillages, même pas peur. Même pas peur parce que la personne, elle se dit, ah, il y a une demi-heure d'embouteillage pour aller là, j'y vais quand même, c'est pas grave, moi je bosse, je mange, je dors, je fais ma sieste, donc je m'en fous, les embouteillages, même pas peur. Donc en fait, elle va nourrir les embouteillages, la voiture autonome. Voilà, alors la question, c'est le ralentissement. Alors finalement, ou alors, deuxième possibilité, il n'y a peut-être pas toutes les technologies à mettre à la poubelle. Oui, l'hydrogène. Alors l'hydrogène, je pense que c'est une solution. Le problème, c'est que pour la voiture, ça nécessiterait, en termes de réseau, de station-service, si vous voulez, un déploiement hallucinant. Donc l'hydrogène, j'y crois, mais que sur des stations-service finalement pas très nombreuses et plutôt assez capacitaires. Alors sous réserve qu'il y ait des éoliennes pas loin, il ne s'agit pas de craquer du méthane. Aujourd'hui, l'hydrogène, si vous en achetez, c'est du méthane qu'on a craqué. Donc en fait, on a émis du CO2 en craquant du méthane pour faire de l'hydrogène. Donc là, je vous dis, autant faire une voiture GNV. Enfin, autant prendre le méthane et le mettre dans une voiture. Là, ça ne sert à rien. Bilan global. Okay. Donc l'hydrogène a d'intérêt que s'il est fabriqué à partir de l'hydrolyse de l'eau. Il n'y a pas d'hydrogène naturel. Il n'y en a pas. Sauf dans le soleil, mais bon, pour aller le chercher, c'est un peu chaud. Donc ce qu'il faut, c'est le fabriquer avec de l'hydrolyse de l'eau, donc en gros une éolienne, si vous voulez, qui fabrique de l'hydrogène. Et là, par contre, l'hydrogène, c'est un gaz super léger, très intéressant en pollution, mais malheureusement hyper léger, donc il lui faut beaucoup de place, donc il faut le comprimer énormément. Donc à 700 bars, c'est pas facile, vous voyez, un carburant liquide, ça se transporte facilement. À 700 bars, c'est plus compliqué. Donc l'hydrogène, j'y crois beaucoup plus pour les locomotives, en gros. Tous les trains qui ne sont pas dans des zones électrifiées, ou alors ça coûte trop cher en fait d'aller planter des caténaires sur des dizaines de kilomètres, voilà, train d'hydrogène, comme ça il y a un seul endroit de ravitaillement, un champ d'éoliennes à côté, vous voyez ce que je veux dire, sur une gare, un réseau, et voilà, tous ils viennent se ravitailler. Donc l'hydrogène pour ça, éventuellement des flottes de camions qui vont toujours au même endroit se refiouler, vous voyez. Voilà. Mais j'y crois pas trop. Après, il y a les cartouches d'hydrogène éventuellement pour des tout petits, éventuellement des vélos, vous voyez, des cartouches, mais on changerait la cartouche.
Bon, vous avez compris, voilà. Il est intarissable. On va quand même parler du ralentissement. Alors, le ralentissement. Et après, on continuera avec les questions.
La question, c'est pourquoi on se pose une question du ralentissement. Si on se pose, c'est une notion de vitesse. Enfin, si on veut ralentir, c'est qu'on va trop vite. Bon, si on va trop vite, c'est parce qu'on a trop accéléré. Vous êtes d'accord? Bon. Alors, la vitesse, qu'est-ce que c'est? La vitesse, en fait, depuis plus de 100 ans, c'est le symbole de la modernité. Alors, il faudrait relire, à la fin des années 10, il y a eu beaucoup d'articles de presse sur le fait que la vitesse, c'était moderne, ces choses-là. Mais même au début du XXe siècle, Octave Mirbeau, qui était un... Alors, je parle d'Octave Mirbeau, oui, je vous montre ça un truc après. Octave Mirbeau, qui était un journaliste très connu en France, parce qu'il avait une plume acerbe, il écrivait que lui voyait poindre, c'était en 1906, une nouvelle maladie, en fait, qu'il appelait la vitesse. Mais attention, il dit, la vitesse, ce n'est pas la vitesse du compteur. C'est pas le compteur de vitesse qui fait qu'on va vite, c'est pas ça. Il explique en fait, c'est le fait qu'on commence à vivre dans un monde trépidant, où en fait on n'a qu'une envie dès qu'on est quelque part, c'est bouger ailleurs. Et en fait cette maladie, il aurait dû la qualifier de bougeotte. Donc lui en fait, il imagine l'émergence de la bougeotte. Et en fait, donc la vitesse, vous voyez, c'est un symbole de modernité dès le début du XXe siècle. Alors l'accélération c'est quoi? L'accélération c'est, j'en avais parlé, l'accélération du parc mondial. Le parc mondial qui s'accélère, c'est l'accélération des puissances. Les véhicules moyens mondiaux en 1925 faisaient 50 chevaux. Okay, 50 chevaux, ça faisait 20 chevaux en 1920, en gros la Ford T. Augmentation des puissances dans les années folles, là. 1925, on est à 50 chevaux en moyenne mondiale. Vous voyez, 50 chevaux, vous dites, ça y est, c'est assez suffisant. Pas du tout. Après, on monte, la moyenne mondiale à la sortie de la guerre, c'est 100 chevaux. Aux États-Unis, qui est quand même le plus gros marché mondial, en 1970, c'est 250 chevaux. Okay. La moyenne des voitures aux États-Unis est passée de 100 chevaux à 250 chevaux de 1946 à 1970. Vous voyez un peu, donc là on est sur une accélération de la puissance, accélération de la masse qui s'alourdit des voitures, accélération du parc. Et donc c'est d'où nos problèmes. Donc la question c'est la décélération, hein, enfin, le ralentissement donc. Et donc là il y en a 40 pages dans le livre, je peux répondre à vos questions. Il y a 7 thèmes pour pouvoir arriver là, parce que malheureusement il n'y a pas une solution unique. C'est vrai que s'il y avait une idée, bon, on se dit, on se fout à fond dedans, c'est génial, certains disent, avec la taxe carbone, on va tout résoudre. Malheureusement, non. Le niveau qu'il faudrait la mettre... alors, cette taxe carbone, pour moi, c'est un élément parmi d'autres. C'est pas à jeter. Hein. Alors, les 7 clés, il y a l'évolutivité des véhicules. Aujourd'hui, la voiture, elle est devenue jetable. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Des voitures, même qui ont reçu des primes pour qu'on les sorte il y a 15 ans, maintenant, on donne des primes pour aller les jeter, alors qu'en fait, finalement, ce qui est mauvais, c'est le moteur et la ligne d'échappement. Genre votre maison, si votre chaudière elle est vétuste, on ne vous fait pas raser votre maison parce que votre chaudière est vétuste et que vous devez en changer. Sur une voiture, c'est ça qui se passe. Hein. Donc là, il y a un gros sujet à regarder, c'est l'évolutivité réglementaire des véhicules. Ce qui se passe dans les pays en développement, mais alors là, c'est le bricolage complet. Hein. Okay, il y a vraiment deux catégories. Et ça, c'est une grosse réserve d'emploi, entre guillemets, parce qu'il y a des trucs que je vais dire après. Là, par contre, en termes d'emploi de prod, donc c'est pour ça que c'est intéressant. La gestion des carburants, là, c'est le fait de dire ben, les agrocarburants, les carburants qui sont à peu près verts, il faudrait les tracer. Et pas faire en sorte que celui qui a un peu plus d'argent pour se les payer, il se dise qu'il est vert parce qu'il les a achetés. Vous aviez des pubs de gros 4x4 il y a 15 ans, je ne cite pas la marque, il ne faut pas lui faire de pub, mais qui disait, voilà, les 30 000 premiers kilomètres sont compensés parce que nous achetons du CO2, machin, donc vous pouvez rouler avec un encadré de pub, hein, papier glacé, voilà. La fabrication de voitures et les 30 000 premiers kilomètres sont compensés. Alors ensuite, le bridage. Ouais, une minute. le bridage des perfos et la limitation des gabarits, ça c'est une décélération. Je vais expliquer la montée de la masse, montée de la puissance. Bon, ben voilà, on va dire que voilà, un véhicule 1 tonne et demie, c'est déjà largement suffisant. Donc arrêtons les véhicules de 2 tonnes, 2 tonnes et demie, etc. Et la puissance. La puissance, l'accélération, tout ça, vous imaginez, c'est complètement déconnecté du permis de conduire. Ensuite, décélération du coût d'accès à la mobilité. C'est une chose que j'ai dit dans un autre atelier, là. En fait, le premier diagnostic, s'il fallait en faire un de ce problème de pollution, c'est en fait le coût d'accès à la mobilité motorisée à la fois individuelle. C'est en fait parce que c'est trop bon marché en coût marginal pour les gens. C'est ça le premier souci. C'est pas, aujourd'hui, on n'est pas en manque de vélos, si vous voulez, ou de transports en commun. Certes, c'est mieux d'en avoir davantage. Mais le cœur du sujet, c'est qu'en fait, la voiture, elle est trop bon marché. Pourquoi elle est comme ça? Mais les dossiers d'histoire sont intéressants parce qu'ils montrent que les véhicules motorisés qui se sont imposés sont ceux, par exemple, qui se sont fait payer les infrastructures par la collectivité. Et ceux qui ne l'ont pas fait, ils ont tous périclité. Ça a été le cas des tramways, des voitures sans chevaux en Angleterre en 1830. Elles ont périclité parce qu'on leur a demandé de financer les routes qui n'étaient pas très carrossables à la place des diligences. Ça les a coulés. Les tramways ont coulé pour ça. Le transport voie ferrée, il a explosé au 19e parce que le réseau était financé en fait par les spéculateurs et pas du tout par les gens qui payaient les tickets. Toutes les compagnies ont fait faillite plusieurs fois. Donc c'était voilà. Donc c'est pas le coût marginal qui a financé. Et ensuite le train, ben, je sais pas, il y a un mois on disait oh là là, il faut éponger le déficit de la SNCF parce qu'il n'arrive pas à rembourser son réseau. Mais personne dit mais attendez, ça fait 100 ans que les routes, c'est tout le monde qui les finance, c'est pas les gens qui achètent des camions ou des voitures. Enfin, je trouve ça assez hallucinant. Voilà. Ensuite, le marketing de la sobriété, ça consiste à décélérer le ralentissement sur les grands routes mondiaux comme les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde diverses et variées, où le sujet, c'est pas de ne pas les organiser, le sujet, c'est de déplacer des masses de spectateurs au travers des océans. Déplacer des équipes et tout ça, et les voir à la télé, ça va, c'est pas beaucoup de carbone. On va dire, un monde bas carbone, il y a 80 ans, il y avait la Coupe du Monde de foot. Bon, avec un peu moins d'équipes, mais c'est pas grave, les joueurs avec un peu de staff, ils peuvent se déplacer à l'échelle du monde, c'est pas beaucoup. Et quand vous savez que pour l'euro, il y a 10% des Islandais qui sont venus voir un match de foot en France, 10% d'un pays qui ont pris l'avion, enfin... Voilà, donc le marketing de la sobriété, il y a des choses à dire sur les courses de Formule 1 ou les courses automobiles. Il y a 100 ans, il y avait autant de courses de consommation que de courses de vitesse. Aujourd'hui, celui qui gagne, voilà. Bon, voilà. La stabilisation des parcs, c'est-à-dire en fait, ralentissement, la courbe d'augmentation du nombre de véhicules, ben, la stabiliser. C'est-à-dire se dire, faire de, comme le foncier dans l'habitat, créer le foncier dans la mobilité motorisée. Dans l'habitat, en fait, au Moyen-Âge, vous alliez dans une ville, vous installiez là où vous pouvez, c'est-à-dire la lisière, puis vous construisez votre maison sans demander rien à personne. Aujourd'hui, pour acheter 10 voitures, sans demander rien à personne. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, on a des cadastres. On n'a pas le droit de s'installer où on veut. Et ça coûte cher, le foncier. La question, c'est, et c'est comme ça qu'on gère, en fait, l'hégémonie des villes. Donc du coup, la question, c'est mettre en place un foncier de la mobilité. Très gros sujet, pour gérer les parcs. Ça veut dire que ben, si on vend un nouvel avion, ben, en fait, il faut mettre à la casse un avion de la même capacité. Donc ça veut dire qu'on restera avec un parc mondial d'avions complètement stable. Et les ingénieurs, il y aura du boulot pour substituer les vieux avions polluants. Pareil pour les voitures. Donc on stabilise le parc. Après, on diminue du coup le parc des pays occidentaux progressivement pour permettre quand même à certains pays d'en avoir un peu plus, en espérant que ça ne sera pas du gaspillage. Voilà, donc là, il y a toute une gestion. Et enfin, dernier sujet de ralentissement, ben, c'est la sanctuarisation des réserves fossiles. Bon, ça, c'est ce que raconte le GIEC avant moi. Hein. C'est pas l'idée de dire qu'il faut laisser dans le sol trois quarts des réserves fossiles de pétrole, de charbon, de gaz. Ça, c'est aussi un ralentissement de l'extraction, de la fièvre extractiviste. Voilà, donc, bah, écoute, j'ai terminé.
Merci
en
beaucoup.
En conclusion, voilà, ben voilà.
Merci beaucoup pour la prouesse de l'exercice dans un temps aussi court.
Il y a deux ans de boulot, juste un truc, voilà. Si vous feuilletez comme ça le livre, il y a un truc, moi, je vois les gens qui l'ont lu et tout ça me disent « Mais attends, t'as abattu un boulot de dingue ». Regardez un peu les notes de bas de page. Juste en une minute, vous faites ça. En fait, tout est sourcé. Et je suis obligé de tout sourcer, parce que si je ne source pas, c'est dangereux pour moi. En fait, toutes les infos, il y a plein de trucs que je savais. Je me disais, mais ça, il faut le dire. Toute l'affaire Volkswagen, tout ça, c'est décortiqué. L'affaire Volkswagen, c'est la 12e. Hein, okay. Tout ça, les astuces de réglementation, tout ça. Et donc, je suis obligé de tout sourcer. Et donc, je suis content, parce que des choses que je savais il y a 12 ans, bah, c'est public depuis 3-4 ans. Donc ça, c'est sympa, ça me permet de sourcer, de dire, voilà, moi, je peux vous dire que je le sais depuis, voilà.
Allez, on va vous donner la parole.
Les questions que vous voulez.
Quelques questions. Donc, le principe, on va les prendre peut-être deux, trois questions. Comme ça, s'il y en a qui se recoupent, ou 3-4, il répondra aux 3-4, aux 2-3 en même temps. Allez-y. Pardon, des questions courtes, concises, hein, s'il vous plaît.
Vous n'avez pas parlé de la voiture à air comprimé.
Oui.
Donc, il va vous répondre tout de suite. Une autre question peut-être.
Tu les oublies pas.
Allez-y, ouais.
Les chemins de fer. Oui. Les atouts exceptionnels en matière d'écologie, de espace et sécurité humaine, etc.
Oui, okay. Une troisième question. Non, bah vas-y, si tu peux répondre à ça.
Alors, la voiture à air comprimé, donc l'air comprimé, il faut le comprimer. Donc, c'est une réserve d'énergie une fois que vous avez comprimé l'air. Donc, il vous faut de l'énergie pour le comprimer. Donc, il y a plein de moyens de faire tourner un compresseur, on va dire avec de l'électricité, mais alors, comment on la fabrique? Ensuite, une bonbonne d'air comprimé, vous n'allez pas le mettre à 2000 bars. Donc, en gros, ça fait vis-à-vis de son volume, ça fait une réserve d'énergie qui est relativement limitée. C'est-à-dire que si vous imaginez un X5 avec de l'air comprimé, en gros, il n'y aura sûrement pas la place dans la bagnole pour pouvoir mettre la réserve suffisante pour pouvoir assurer l'autonomie d'aujourd'hui. Donc, du coup, l'air comprimé, il est forcément pour des véhicules très légers, plutôt petits. Et à ce moment-là, du coup, on est un peu dans... Donc, pourquoi pas? Ensuite, bon, il y a un détail, c'est que ça fait du bruit, mais bon, à la limite, si on s'y met vraiment, je pense que ça peut être traité, mais quand Nègre, c'est... Il y a une voiture comme ça qui sort en Inde. Enfin, il a pris un contrat en Inde sur le sujet. En tout cas, voilà. Donc la question, ça fait un véhicule sobre par nécessité. Donc ça, c'est bien. Vous ne pouvez pas imaginer un véhicule de 200 chevaux à l'air comprimé. Enfin, vous n'en sortirez pas en termes de place. Donc ça, c'est le côté positif. Après, la question, c'est comment on fabrique cette électricité. Finalement, l'air comprimé, c'est un réservoir comme un autre. Après tout, c'est comme une batterie, sauf qu'à fabriquer, c'est quand même beaucoup plus simple, c'est moins impactant. Et après, l'électricité, si vous faites tourner une centrale au charbon pour faire tourner votre compresseur, le bilan carbone n'est pas terrible. Je dirais, si c'est une éolienne qui gêne personne, à ce moment-là, ça peut être bien. Donc l'air comprimé, ça peut être une solution, effectivement, dans certaines villes. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais au niveau mondial, je sens, pour moi, ça resterait, a priori, un marché de niche, mais je peux me tromper. Hein. Voilà. Ensuite, sur le ferroviaire, bon, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Enfin, c'est plutôt le tramway ou le train qui vous intéresse?
Le tout.
Ou l'hyperloop.
Le train.
Ou l'hyperloop. Parce que sur la technologie, là, sur le train... ce que vous pouvez lire dans les journaux, c'est que, par exemple, tiens, Limoges sera à une heure de Paris avec un... vous savez, les pneumatiques, ce que c'était. Les pneumatiques, les réseaux pneumatiques, c'était des tuyaux dans lesquels on faisait circuler, ça existe encore aujourd'hui des fois, des espèces de boîtes de conserve pour faire passer des courriers. Donc vous imaginez un réseau pneumatique avec un rayon de 3 mètres, et puis on fait sous vide, et du coup, sous vide, il y a très peu de frottement électromagnétique sous vide, hop, à 1000 km/h. Donc là, il y a des projets actuellement très sérieux, des gros investissements, qui promettent que, finalement, telle ville, Los Angeles, San Francisco... Limoges-Paris, sera à une heure. Donc là, déjà, tout ça, au-delà du fait que ce soit une bêtise, parce que, à mon avis, ça sortira même pas, il y avait le... Comment ça s'appelait dans les années 70 l'aérotrain. Voilà, l'aérotrain, on en voit encore les vestiges en béton qui se font prendre par le lierre au sud de Paris, à côté d'Orléans. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que, dans l'histoire des transports, en fait, on a vendu aux gens des transports plus rapides en leur disant qu'ils allaient gagner du temps. Et c'est ça qu'on continue à dire, même pour ces projets-là à 1000 km/h qui auront... Voilà. Alors que la réalité, c'est qu'en fait, ce que les sociologues ont démontré depuis, au moins 50 ans, c'est que ça ne raccourcit pas les durées de transport, ça rallonge les distances. Il y a Charbonneau, alors Bernard Charbonneau, vous connaissez Jacques Ellul, certains connaissent peut-être Jacques Ellul qui était bordelais. Charbonneau qui était son compagnon de route, on va dire. Il écrivait dans les années 60... le jour où les bureaux de l'Opéra à Paris seront à une heure du centre de Bordeaux, donc vous voyez, on est passé de 3 heures à 2 heures récemment, ça vous a pas échappé, il disait que lorsque ça sera à une heure, la France sera une vaste banlieue. Et ça veut dire quoi? C'est que si vous mettez quelque chose à une heure d'autre chose, ça va devenir nécessairement la banlieue, c'est-à-dire que les gens vont faire du domicile-travail avec, quel que soit le moyen. Et ça avait déjà été annoncé par Wells, donc Herbert Joel Wells, c'est le Jules Verne anglais, qui est l'auteur de plein d'ouvrages de science-fiction. Mais il y a un ouvrage intéressant, enfin, qui va intéresser beaucoup à moi, c'est l'ouvrage Anticipation. Donc l'anticipation, c'est pas de la science-fiction, c'est à un moment quelqu'un qui se dit, j'écris en telle année, je me positionne en telle année, et très, très, très sérieusement, j'imagine la vie à cette année-là. Wells, il a écrit un seul livre d'anticipation en 1900, il a imaginé l'an 2000. Et quand il décrit la situation, il essaie de faire une réflexion pour dire, bon, alors, en l'an 2000, ça sera comment l'urbanisme? Et il explique, voilà, depuis plusieurs siècles, finalement, la taille des villes, la taille des villes, il y a le centre, le rayon des villes depuis plusieurs siècles, c'est une heure de transport de masse. C'est une heure de transport de masse. Donc en gros, à l'époque où les gens n'avaient que la marche à pied, les grandes villes, c'était 6 km de rayon. Et lorsqu'il y avait une ville qui voulait croître, en fait, on installait une autre ville ailleurs. pie qui, elle, croissait. Et les villes arrêtaient de croître, en fait, grosso modo, en simplifiant. Le cheval est arrivé comme transport massif dans pas mal de villes. Avec le cheval, le 1 heure a permis de doubler, en fait, d'aller à 12 km/h. Donc les villes ont pu doubler, mais se sont de nouveau arrêtées. Et là, il est en 1900. Et il annonce le fait que, d'après lui, en l'an 2000, les transports de masse auront 50 km/h de moyenne. Donc imaginez-vous, on est en 1900, et regardez le compteur d'une voiture, d'un RER, des choses comme ça. Très fort. Et donc il dit, voilà, les grandes villes du monde, en fait, elles auront 50 km de rayon. Et c'est à peu près ce qui se passe. Regardez la région parisienne, là, autour de New York, enfin voilà. Donc c'est extraordinaire d'analyse, de se dire que finalement, ce n'est pas la vitesse du moyen qui est la question, mais le temps. Et il aurait pu rajouter les moyens financiers. En fait, les deux critères aujourd'hui de choix de domiciliation par rapport au travail, c'est le temps, ça reste ça, et l'argent. Et l'ennui, c'est que les transports motorisés individuels notamment, et c'est ça le cœur du diagnostic, je pense qu'il faudrait faire, c'est qu'ils sont juste trop bon marché. Comme je vous expliquais, ceux qui se sont, ceux qui se sont effondrés, voilà. Donc finalement, le transport ferroviaire, vous voyez, avec la spéculation, bah, ils se sont développés dans la spéculation et les États qui ont financé. En Angleterre, c'est surtout l'État. En France, ça a été un mélange. Et puis lorsqu'on a voulu leur faire payer l'infrastructure, ils se sont effondrés. Les tramways se sont effondrés pour ça. Donc le train, c'est une super solution. Je suis d'accord avec vous. L'écart du train, qui n'est pas une bonne solution, c'est le domicile-travail. C'est-à-dire que les gens qui s'installent à Orléans, qui vont bosser à Paris en train, ils mettent une heure de trajet, ils prennent le TGV tous les matins et tous les soirs. Le bilan carbone, c'est pas mieux que de prendre une voiture pour faire 10 km. Vous voyez, bon. Au kilomètre, c'est mieux, mais si vous faites 100 km pour aller bosser en train, c'est pas mieux. Donc le train, il y a quand même des choses pas bien. Et puis une dernière chose sur le TGV, par exemple. Il faut que je m'arrête. Mais... Le TGV, par exemple, ce qui est extraordinaire sur le TGV, c'est que le premier TGV, donc Paris-Lyon, il a été décidé en 1974, quelques mois après le premier choc pétrolier. Donc là, vous dites, mais c'est pas possible, comment ils ont fait? Et en fait, les ministres ont avoué, en fait, quelques années plus tard, qu'ils avaient, on va dire, emberlificoté la décision. C'est-à-dire que le TGV, le développement a été fait, il fallait prendre la décision, choc pétrolier, le pétrole, premier choc pétrolier, il passe de 3 à 12 dollars. Hein, 3 à 12 dollars en 3 mois. Et là, ils se disent, oh là là, mais c'est pas possible, c'est un train qui est glouton quand même. Hein. Et bien, on va dire que c'est pour les économies d'énergie. On va le vendre, donc il a été décidé pour les économies d'énergie, en disant que d'ailleurs, il y aurait, les personnes ne prendraient pas l'avion pour faire Paris-Lyon. Bon, à l'arrivée, ça a été une addition. Okay, donc c'était pas des économies d'énergie. Et je voulais dire un truc de plus, mais je sais plus sur
le
train.
Le temps que le retour.
Oui, voilà. Et le TGV, donc Bordeaux. Donc Bordeaux-Paris à 2 heures. Je trouve ça extraordinaire d'avoir, moi je suis à Bordeaux, d'avoir vendu aux Bordelais, et donc à la région Aquitaine, parce que les Bordelais, comme les autres, d'ailleurs vous-même, d'ailleurs vous avez financé en fait, puisque c'est la région qui a financé une bonne partie, d'aller dire aux gens, gagnez une heure, vous allez gagner une heure sur le trajet pour aller à Paris. Ce qu'on, là, le gros mensonge, c'est qu'on leur a pas dit que les Parisiens, ils allaient gagner une heure pour venir à Bordeaux. Et du coup, la conséquence pour des gens qui sont comme moi dans des sociétés de services, dans mon bureau d'études, moi, enfin, mon bureau d'études, des avocats, des architectes et tout ça, des gens qui allaient, par exemple, 10 fois à Paris en 3 heures depuis Bordeaux, je vous promets, avec le TGV à 2 heures, ils vont y aller en 2 heures. Au lieu d'aller 10 fois par an, ben, ils vont y aller 20 fois par an. Donc en fait, ils passeront plus de temps dans le train, et alors en argent, ça va leur coûter beaucoup plus, parce qu'en plus, le prix va augmenter, donc si vous allez en plus 50% plus souvent, bref, donc voilà. Donc ça, c'est une illusion. Voilà.
Merci. Juste une petite annonce.
Voilà.
Pour ceux qui ont déjà suivi les conférences, vous le savez, mais je répète pour les autres, l'événement aujourd'hui est gratuit, pas gratuit pour tout le monde, puisque donc c'est nous qui avons avancé les fonds. Du coup, on vous fait passer une petite caisse de soutien, voilà, pour nous aider à financer tout ça. Donc elle va circuler dans la salle pour les 5 dernières minutes.
Tu as une question, franchement, sinon...
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle d'abord, hein?
Ah, on a encore 10 minutes, hein, théoriquement.
Alors, monsieur a été le plus rapide pour lever la main, et puis on va circuler ensuite.
Les porte-containers, la navire marchande, ça marchait avec les résidus de pétrole, et en consommation, c'était l'équivalent, c'était des centaines de milliers de voitures, non?
En fait, effectivement...
Si tu peux répondre après, on prend les 4 questions, comme ça tu veux.
Monsieur. Deux questions. Qu'est-ce que vous avez pu savoir à partir de quand et comment sur l'affaire Volkswagen?
Je vais vous faire un scoop, je vais vous dire l'origine de l'affaire Volkswagen.
Et sur les progrès d'efficacité énergétique des voitures thermiques, est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la marge de manœuvre sur les moteurs? Parce qu'il y a des mesures un peu plus de sobriété que d'efficacité sur la masse, etc., la puissance. Est-ce que sur le progrès purement technique, il y a encore de la marge?
Ok, j'avais une question là-bas, monsieur.
Et au-delà du transport et de la comparaison, par exemple, de l'automobile et l'aérien, on part souvent sur le fait du transport, mais on n'intègre souvent pas, en tout cas les politiques et bien de faire, le coût de la fabrication d'infrastructures. Je pense notamment à l'énergie, la catastrophe mentale.
dernière question pour Madame Enfant.
Tu notes là.
Celle-ci, je ne l'ai pas écoutée en fait. Donc celle-ci, ouais, c'est toi qui la mémorises. Madame Enfant.
Non, je ne vais pas trop, voilà, pas trop pouvoir vous répondre. Vous répondre, c'est un petit peu d'autorisation que je ne maîtrise pas. Donc, je suis désolé.
Alors, on était sur la navire marchande.
Oui, alors la navire marchande. En fait, c'est vrai qu'il y a des articles qui disent « Oh là là, tel navire, c'est, ça vaut 100 000 voitures. » Bon, en fait, vous avez bien commencé votre question. En fait, quand vous distillez du pétrole, en fait, c'est une colonne de distillation. Les trucs les plus légers sont en haut, après avoir chauffé. Je simplifie. Et au fond, vous avez la fin du pot de confiture. En gros, le truc bien gras avec... voilà. Et donc, ça vaut pas cher. Ce qui est en bas, on vous le donne presque pour l'utiliser. Ça s'appelle le fuel lourd, qui s'appelle fuel résiduel. Bon, il y a résiduel, il y a résidu. Bon. Et en fait, c'est tellement visqueux, ce truc-là, machin, que pour pouvoir s'en servir dans un... Il faut un très gros moteur. Okay, pour le, il faut le chauffer. Et il faut un très très gros moteur. C'est pour ça que le fuel lourd finalement n'est utilisé que sur des grosses installations fixes ou sur des bateaux en priorité. Sauf que il est très très soufré. Donc les émanations de soufre, alors il ne faut pas confondre le SO2 et le CO2. Donc du coup les émanations de soufre, de SO2, donc le SO2 c'est ça qui a donné le smog en Angleterre hein, par exemple. Hein, donc c'est très irritant. Vous allez me dire le bateau il est au milieu de l'océan. Bon. Alors, donc les émanations de SO2, du coup, sont très très fortes parce que comme on a baissé le soufre dans les carburants des routiers, parce que là, le soufre, il était dans les villes, aujourd'hui, les carburants routiers, ils ont très peu de soufre. On va dire, allez, je simplifie, 1000 fois moins par litre que du fuel lourd. Donc, du coup, lorsqu'un navire utilise ça, vous voyez que pour un litre de gaz, enfin, c'est pas du gazole, mais un litre de fuel lourd, si vous voulez, il émet 1000 fois plus de SO2 que un litre de gazole. Donc, du coup, si vous comparez sur le SO2 à une voiture, vous obtenez un navire, c'est énorme, effectivement. Donc il faut confondre le CO2 et le SO2. Et il y a un amalgame complètement en général dans les articles de presse. Pour faire spectacle, on dit un navire c'est 1 million de voitures. Non, c'est 1 million de voitures en SO2. En CO2, il faut diviser peut-être par 1000. Oui. Bon. Alors ça reste quand même très polluant. Voilà. Et donc le SO2, lorsque dans certains ports ou certaines zones côtières aux États-Unis, vous avez l'interdiction d'utiliser du fuel lourd parce que vous êtes à proximité de... Voilà. Donc maintenant les navires, beaucoup, les porte-conteneurs ou autres, mais en fait, ils ont un gros réservoir de fuel lourd, et puis à côté, ils ont un petit réservoir de gazole. Comme ça, quand ils sont à 10 km du port, là, à 10 000, mais là, hop, ils zappent, ils pompent le gazole, et comme ça, en fait, ils émettent plus de SO2, mais uniquement sur les 10 derniers kilomètres. Et puis après, quand ils repartent, parce que ça coûte beaucoup plus cher le gazole, oui, que le fuel lourd. Voilà. On avait deuxième question.
On avait Volkswagen.
Là. Oui, alors l'affaire Volkswagen.
Bon, très vite.
Très vite.
Désolé.
Bon, l'affaire Volkswagen... elle est née en, enfin, elle a été révélée en 2015. En fait, ça couvait depuis un an. Vous savez ce que c'est. Enfin, il y a, en gros, le calculateur moteur, il a deux programmes, un programme A et un programme B. Et puis, c'est très facile sur une voiture de détecter si elle est sur un banc d'homologation. C'est très, très facile. Et ce qui est étonnant, c'est que l'affaire Volkswagen, ils n'ont même pas pris des gants. Quoi. Donc, sur un banc d'homologation, la voiture, en général, elle est, on va dire, c'est une traction. Donc, il n'y a que la roue avant qui tourne. Et là, elle est sur des rouleaux. Sur un banc d'homologation, il y a deux rouleaux, comme ça. Et là, elle est sur le sol. Or, sur les voitures modernes, notamment celle-là, vous avez l'ABS et le SP. Donc, en fait, vous avez des capteurs de rotation des roues. Donc, quand la voiture démarre sur un banc d'homologation, ben, il y a le capteur d'ABS, machin, qui vous dit que cette roue, elle tourne. Et celui-là, il vous dit qu'elle ne tourne pas. Donc, en fait, dès la première seconde, vous savez que la voiture... Bon, alors, est-ce que vous êtes à la neige en train de démarrer sur une plaque de verglas ? Ben non, parce que le capteur de température extérieure, l'essai, il est entre 20 et 30 degrés. Donc, comme le voilà, vous croisez avec la température derrière. Si vous n'êtes vraiment pas sûr, vous avez le volant au milieu, votre volant là, vu que sur les bancs, il est exactement à midi, parce que les bancs, les rouleaux, ils sont perpendiculaires à la voiture. Bon, trouver les conditions dans lesquelles, quand vous démarrez, votre volant il est à midi, et puis vous démarrez et vous restez exactement à midi, vous verrez, ça arrive jamais quoi. Enfin, bon. Bref, donc c'est hyper facile de détecter, et en fait, ils ont utilisé ces paramètres là, ce qui est quand même dingue, moi, quand c'est sorti en me disant, c'est vraiment des gorées. Et pour dire, voilà, s'ils détectent ce que je vous ai dit, ils font tourner le programme B. Qui lui a une voiture qui a une puissance qui n'est pas du tout ni un couple, celle qui est annoncée, elle ne fait pas du tout 200 chevaux, 300 Nm, pas du tout, elle fait un tiers de ça, mais on s'en fout, pour passer le cycle, elle n'a pas du tout besoin d'une voiture puissante. Donc elle fait tourner ça et elle active les systèmes de dépollution parce que pour les systèmes de NOx, là, je vous ai expliqué qu'il y a un réservoir d'urée qui injecte dans le gaz des sapins de l'urée qui fait de l'ammoniac, enfin qui risque de faire de l'ammoniac, hein, et qui réduit les NOx. Les NOx sont transformés en azote et en oxygène. Sauf que ce réservoir d'urée, le monsieur qui conduit, si jamais on l'active tout le temps, ben le réservoir, il faudrait qu'il soit très gros. Et donc, ou alors qu'à chaque fois qu'il va faire le plein de gazole, on va lui dire à la station-service, il faut faire le plein d'urée. Donc ça, c'est pas commercialement pour vendre des voitures aux États-Unis et lancer le diesel. Donc du coup, ils se sont dit, non, on va faire un réservoir. Eh bien, le réservoir, il est ce qu'il est, 8 ou 10 litres, bon. Et puis, on va pas activer le truc tout le temps, parce que sinon, le gars, il va falloir qu'il fasse le plein à chaque fois. Donc à ce moment-là, sur le site d'homologation, on va l'activer. Comme ça, on va passer le cycle qui dure 10 minutes, 20 minutes, on a assez de durée pour le faire. Et puis lorsqu'il est dans la vraie vie, eh bien, dans la vraie vie, on s'en fout. Donc on fait tourner le programme. Voilà. Donc c'est ça qu'ils ont fait. Alors la naissance de ça... Non, vous ne m'enregistrez pas. Hein.
Attention, attention.
La naissance de ça, c'est 1999, accrochez-vous. C'est-à-dire que l'affaire, elle a éclaté sur des voitures, donc 2009, à partir de 2009. Et en fait, en 1999, je fais un cours, là.
Non, non, mais très très court.
En 1999, dans les détails. Audi et l'Europe, les ingénieurs. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. I sweep the streets I used to own. I used to roll. The fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead. Long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. I hear you. Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you're gone there's never, never an honest word. But that was when I ruled the world. And wild wind blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter will call my name. Never an honest word. That was when I ruled the world. When I ruled the world, never an honest word. That was when I ruled the world.